Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison du SAV de la F1. Et comme le SAV de la F1, c'est comme la F1, eh bien ça recommence tous les ans, mais ça n'est jamais vraiment pareil. La première surprise, vous venez de l'écouter, c'est ce nouveau générique, plus rock'n'roll, plus F1-esque, hein, qui s'appelle Morning Racing. Hein. Pour être honnête, un obscur morceau tchèque qu'on a récupéré sur Internet. Deuxième surprise, vous aurez remarqué que ce n'est pas Yannick qui vous accueille cette année. Ce sera moi. Alors, Yannick, il a eu envie de faire d'autres choses, de s'occuper du site, de s'occuper d'un concours de pronostics. Donc, il a décidé de me laisser la place. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Yannick, t'es là, mais...
Ceci est une alerte enlèvement du service après-vente de la F1. Un animateur a été enlevé. Enzo, animateur du SAV, est porté disparu. Vu pour la dernière fois à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi, sa disparition a été constatée le soir de la remise des SAV d'or, en janvier dernier. Les premières conclusions de l'enquête laissent à penser que le petit Enzo a été enrôlé par une secte McLareniste. Toute l'équipe du SAV est inquiète. Si vous l'apercevez, ne prévenez pas la police. Appelez le service après-vente de la F1.
Alors ça y est, je commence la présentation des émissions et c'est déjà la merde.
Bah ouais. C'est vraiment la grosse tuile. Hein. On se sent seul.
Que dire.
Oui. Il y a de l'écho.
On se sent aux deux tiers.
Voilà. Bon, on va quand même un peu expliquer. Enzo ne sera pas disponible pour cette émission pour des raisons personnelles qui vous expliquera peut-être. Voilà, donc on le recherche en espérant le retrouver prochainement. Bon, on voulait quand même annoncer ça dans la bonne humeur avec un petit message décalé. Et vous avez une bonus track. Puisque vous savez très bien que ce genre d'alerte enlèvement passe des fois en audio, mais passe surtout en vidéo, donc on s'est dit qu'il fallait absolument...
Oh, ça faisait longtemps.
C'est la vidéo secrète. Alors attention, parce que c'est un petit peu technique. Vous allez devoir aller la chercher sur Internet. Donc, pour avoir accès à la vidéo, il faut aller sur l'adresse suivante, www.savf1.fr/vidéo/alerte -normal, hein, enzo.avi.
C'est drôle, il n'y a plus de NF.
Oui, il n'y a plus de NF. Puisque, théoriquement, quand vous entendrez cette émission, on aura peut-être réussi à transférer l'émission vers un nouveau serveur, beaucoup plus grand, qui pourra accueillir toutes les archives du SAV, ce qui n'est pas le cas actuellement du serveur. Et vu...
Mais circoncide son NF.
Donc tu vois, Enzo, tu peux revenir, si jamais tu nous écoutes, de là où tu as été enlevé.
On l'espère, hein, écoute.
Tu peux revenir, hein, puisque quand tu feras la question top opposition, eh ben, il n'y a plus besoin de dire NF, donc ça te fera moins de prise.
Tu n'es pas trop triste de ne plus être l'animateur?
Je suis libéré.
Sachant que tu es toujours le maître du montage, donc.
Voilà.
Tu es quand même, voilà.
Donc, grosso modo, je conserve une mainmise quasiment totale sur cette émission.
Totale. Voilà. Mais, cette émission, elle a une raison. C'est dimanche, plus qu'une semaine avant le début de la saison de F1, cette saison 2010.
À 14h. Cette...
Oui, c'est vrai, non, ça va changer pour un début de saison.
Je suis désolé, moi je pousse mon coup de gueule, il y en a marre de ce début de saison à 14h. Moi c'est 4h du matin, c'est comme ça, moi c'est des règles un peu archaïques, mais c'est comme ça.
En même temps, c'est la deuxième fois depuis
pas savoir.
Bien longtemps.
L'an dernier, il y avait eu 7h du matin, je crois, et puis Bahreïn avait déjà inauguré la saison, je crois, c'est pour les débuts de Rosberg chez Williams, puisqu'il avait signé meilleur tour en course.
Oui, en 2007.
C'est pas 2006
Oui, c'est ça.
Et voilà, il en manque un, et ça y est, c'est le bordel dans les données statistiques historiques.
Oui, c'est 2006. Et tu te souviens pourquoi en 2006 l'Australie n'avait pas accueilli la manche d'inauguration?
Il n'y avait pas les jeux du Commonwealth à Sydney ou un truc dans le...
Exactement, il y avait les jeux du Commonwealth, et donc ils avaient décalé...
Ah, c'est vraiment con que le Grand Prix du Canada se passe pas à Vancouver.
Pour aborder, puisque nous allons aborder toute la saison 2010.
Ouais.
Tout. L'aspect
tout.
Sportif, l'aspect technique, les points, les pneus, l'essence, les voitures qui rouleront jamais, tout. Et donc, commençons d'abord par le calendrier, puisque, alors, franchement, très belle transition, puisque, justement, on ne commence pas par l'Australie.
Je tiens quand même à dire, chers auditeurs, que vous avez remarqué que Shinji s'auto-congratule de ses transitions, ce que je ne faisais pas, hein.
Non, mais toi, tu n'en faisais pas. Mais tu ne pouvais pas t'auto-congratuler parce que tu ne faisais pas de transition.
Ah, d'accord, je me tais.
Ah. Donc, début de saison, le 14 mars, à Bahreïn, qui n'échange pas réellement sa place avec l'Australie. Parce qu'en 2009, le Grand Prix d'Australie, c'était le 29 mars.
Voilà.
Et cette année, c'est le 28 mars. Voilà. Donc, c'est vraiment Bahreïn qu'on met deux semaines avant. Et tu sais pourquoi on a mis Bahreïn deux semaines avant ?
Je sais plus.
Bah, c'est juste pour que l'intersaison soit plus courte et que la saison commence plus tôt.
Ah, d'accord.
Bahreïn, et on en a parlé sur le site, qui a un, j'ai envie de dire entre guillemets, un nouveau tracé.
Hey, avec une petite quéquette.
La petite quéquette avec 9 virages.
Mesdemoiselles, désolé de cette petite remarque très gracieuse, mais on est obligé de dire petite quéquette, voilà.
C'est vrai que globalement, ça ressemble un peu à ça.
En même temps, ça va peut-être mettre un petit peu, enfin, faut quand même dire, en tant que fan de F1, on peut quand même être content de voir ce circuit évacué avec la chasse d'eau dès le premier Grand Prix. Parce que bon, même si effectivement, il y en a certains qui vont dire, ouais, bon, vous êtes sévère envers Bahreïn. Ouais, enfin, il y a un virage, peut-être deux, qui sont pas passionnants. Avec, moi, personnellement, avec la nouvelle portion, il y a des virages un peu plus intéressants qui vont apparaître.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit une grande zone de dépassement, hein. Au pire, ça va compliquer le réglage des voitures.
Voilà, parce que c'est
une partie. Pas s'attendre non plus.
Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de l'essayer sur un jeu, dont je me rappelle plus le nom du jeu, mais je l'ai essayé, c'est certain. Il y a des enchaînements assez sympas, notamment. Juste le début de la nouvelle portion, il y a une espèce de changement d'équilibre qui peut être assez sympa. Mmh. Mais après, ça reste Bahreïn et...
Donc, Australie, le 28 mars. Ensuite, on fait dans le classique. Jusqu'à la fin mai, jusqu'à mi-juin. Et mi-juin, il y a le grand retour.
Hein.
Ce circuit que tu n'aimes pas, la piste. Ouais. C'est pas que non, tu l'aimes pas, mais c'est qu'elle devrait être mieux entretenue.
J'adore ce circuit, j'adore l'ambiance.
Ah, comme tout le monde. Mais... Tout le monde adore l'ambiance, voilà. Tout le monde adore ce circuit.
La dernière fois qu'on y est allé, c'était une course indigne de la F1, du GP2, du GP3, de la F3, de la F3.
Le retour de la F1 en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal.
Je dirais même, pour en vexer certains, c'était une piste indigne de la Super League Formula.
C'est méchant.
Ouais.
Là, c'est vraiment méchant. Parce que tu te rends compte que même Donington est digne de la Super League Formula.
Ouais. Et pour.
Donc c'est très méchant ce que tu viens de dire.
Non mais c'est vrai que en 2000, la dernière fois c'était la victoire de Kubica en 2008. Ouais, c'est ça, 2008. En 2008, c'était dans un état catastrophique, replâtré à coups de ciment. Tout ce que je leur souhaite, c'est effectivement d'avoir résolu tous les problèmes, les problèmes de bitume. Mais c'est vrai que bon, ça, c'est dû aux conditions un peu extrêmes aussi. Enfin, extrêmes. Il fait chaud et il gèle, il neige. Donc,
oui.
C'est vrai que le revêtement est mis à dure épreuve et on peut pas non plus les blâmer pour ça. Mais c'est vrai.
Que... Ah, il fait même très chaud en mi-juin. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, je me rappelle il y a deux ans, la piste fondait littéralement. Donc après le Canada, un nouveau. Non ? Ah non, attends, yo, on revient déjà au Canada.
Ah bah non, attends, ils ont une écurie, ils vont quand même avoir un grand prix. Cette émission a été enregistrée trois semaines avant le début de la saison.
Après le Canada, retour en... Et quand même, c'est des mecs super drôles, parce qu'ils se sont dit, après l'Amérique du Nord, on revient en Europe. Et ben pour venir en Europe, quel grand prix on met ? Le Grand Prix d'Europe.
Ah oui, c'est vrai, ils l'ont avancé cette année.
Eh oui, il est avancé au lieu d'être fin août au retour de vacances, il est fin juin. Par contre, ce déplacement-là, c'est un déplacement météorologique. C'est vraiment avoir une piste plus fraîche. Enfin, en tout cas, un grand prix plus frais.
Il y avait pas aussi l'idée de déplacer au cas où il y aurait pas le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone.
Aussi, oui. Enfin, tu sais, il était question de Grand Prix de la Méditerranée, voilà. Et tout ça, Sydney-Donington.
Et Silverstone deviendrait Grand Prix d'Europe.
Voilà.
Pour des obscures questions de droit de contrat, du fait que Donington était propriétaire de la dénomination Grand Prix de Grande-Bretagne.
Alors, est-ce que deux mois plus tôt, ça va vraiment changer l'allure de la course ?
Mais non, c'est une piste de merde. Mais c'est de la merde.
C'est vrai qu'il fera plus frais, mais les virages sont toujours les mêmes. Donc,
voilà.
Et donc, d'ailleurs, après l'Europe, Grande-Bretagne, le 11 juillet, à Silverstone, pour les 17 prochaines années.
Ouais.
Ça, c'est super, les contrats sur 17 ans, c'est génial.
Et sur le nouveau Silverstone.
C'est plus la création d'un gros freinage, en fait. Donc désormais, à B, au lieu de tourner à gauche, on tournera à droite.
Voilà.
Pour aller dans cette zone arena, en gros, ça va être un gros freinage avec des, surtout des grandes tribunes pour augmenter la,
voilà.
le nombre
de C'est le problème du Grand Prix d'Angleterre, c'est que, voilà. normalement, leurs installations sont un peu étriquées.
Pour revenir sur la petite quéquette, tu sais, qui est avant la ligne droite des stands.
Voilà. Ah, mais on sera tous là au premier virage. Putain, Lewis, gourre-toi. Surtout Button, hein, il va prier, lui, dans son baquet.
Donc ensuite, suivi de la saison estivale classique, puis...
Non, on peut quand même noter le Grand Prix, un Grand Prix d'Allemagne qui devient un Grand Prix de la F1, puisque il y a quasiment que des pilotes allemands maintenant. Donc,
oui,
c'est le nouveau Grand Prix national de la F1.
Et donc, finale asiatique, avec le nouveau circuit de l'année.
Oh non. Un nouveau tâcheron.
Encore un circuit qui se situe, attention, grande originalité, sur le front de mer.
Wow.
Sérieusement, si un jour on n'avait pas inventé Monaco, je sais pas à quoi ça ressemblerait la F1 aujourd'hui.
Bah ouais.
C'est impossible aujourd'hui de faire un circuit qui soit pas sur le front de mer.
Bah ouais, non mais là c'est limite sur la plage.
Ah oui. Voilà. Mais d'ailleurs, enfin, alors on n'a pas encore vu d'image, on connaît en fait juste le tracé, mais vraiment le tracé, hein. On connaît même pas les bosses et tout ça. C'est vraiment un double circuit, enfin c'est T'as vraiment la partie où des stands, c'est de la ligne droite avec des trucs, des virages à 90 degrés, et une partie hyper sinueuse qu'on suppose être le front de mer.
Mais si je me trompe pas, en plus il y a une vidéo hein, sur internet, une vidéo en vue intérieure, je crois, du circuit, mais c'est Abu Dhabi, quoi. C'est-à-dire que c'est la grande mode en ce moment avec Herman Till qui se fait plaisir depuis le Grand Prix de Chine, c'est de nous faire une ligne droite qui n'est pas la ligne droite des stands, mais qui est la plus longue du circuit. Mmh. Et là, vous allez avoir la plus longue ligne droite. Vous allez avoir une grande ligne droite, un virage, une immense ligne droite, un virage.
Alors, un virage en plus à 110 voilà. degrés.
Hein.
Puis un autre grande ligne droite, puis un virage, et puis alors là, un truc super sinueux.
Voilà.
Espèce de mélange étrange entre Abu Dhabi et la Turquie, enfin, un truc qui ressemble d'ailleurs à pas grand chose pour l'instant.
Oui. Non, mais il y aura beaucoup de public, environ 10 000 personnes. Plaisir.
Oui. Il y aura tous les Japonais.
Ouais. Pour soutenir. Non, j'ai rien dit. Non. Ah, t'as vu,
qu'est-ce que t'allais dire?
Non, j'allais dire pour soutenir Toyota, mais ils sont plus là. Honda, c'est déjà devenu Mercedes. Nakashima, il est là. Il y a Kobayashi qui roule pour une équipe suisse, alors. Il est neutre.
Ouais. Et donc, fin de saison. Alors, c'est triste. Parce que bon, l'an dernier, c'est vrai qu'il y avait les travaux. Donc, ça s'expliquait. Mais là, ça a été confirmé. On ne finira pas la saison au Brésil.
Vu qu'ils sont claqués pour la F1.
Ouais, mais tu vois, t'as envie, comme l'an dernier, que le championnat, il se termine vraiment au Brésil, quoi.
Ah bah oui, non mais ça va arriver, hein, quand Alonso aura fait étaler tout son talent.
Ah, tu t'es, c'est même plus...
Ah ouais, non mais j'ai viré, mec.
C'est un lien.
Ça y est, c'est... Schumacher, je sais même plus qui c'est.
Donc, après le calendrier, on va parler là vraiment d'un point qui a beaucoup changé.
La nature du goudron.
Non.
La voie des stands.
Tu aurais dû tilter sur le terme point.
Ah oui.
C'est le nouveau barème.
Oh non.
Ah non, attends, tu vas pas chipoter. On a plus de voitures qui remportent. On a de nouveau une prime à la victoire. Oui, d'accord, bon, on n'a pas les points pour la qualif, on n'a pas les points pour le meilleur tour. Mais c'est quand même vachement mieux qu'avant.
Ouais.
En plus, ils ont même réglé le truc parce que la première proposition, c'était un peu merdique quand même.
Non, c'était bien. Bon, ce qui était gênant dans la première proposition, c'est qu'il y avait un véritable écart, même un gouffre, par rapport à l'ancien barème entre le troisième et le quatrième. C'est-à-dire que il y avait pour le coup pas une prime à la victoire, mais une prime au podium. Et c'est dans ce domaine-là, à la limite, je me dis que c'était peut-être pas plus mal parce que là, tu fais une prime à la victoire, mais les mecs qui pourront pas jouer la victoire, bah ça veut dire le troisième, quatrième, bah eux, ils vont se mettre le coude à la portière et puis ils vont faire leur course et ils iront pas forcément chercher la victoire. Alors que si t'avais fait justement le premier barème qui mettait plutôt une prime au podium, bah je pense que là il y aurait peut-être eu plus de batailles aux avant-postes.
Mais le but c'était quand même de revaloriser la victoire. Tu l'as toi-même vu puisque t'avais fait un article que la première proposition c'était quasiment le système 10 qu'on avait avant jusqu'à l'an dernier, mais qu'on avait multiplié par 2,5, 3.
Mais moi j'aime bien ce système. Non mais sérieux.
Mais là c'est mieux, ça revalorise la victoire.
Mais oui, mais on s'expose à des risques d'avoir des... Enfin,
c'est moi. Puis c'est génial c'est d'avoir des champions du monde à 300 points.
C'est moi qui vais dire ça, mais on s'expose quand même au risque d'avoir des saisons. Il faut quand même rappeler qu'on avait changé de barème pour éviter que Shumi soit titré trop tôt. Et on a eu quand même depuis des saisons super passionnantes qui se jouaient jusqu'à la fin. Là, je crois que le vainqueur, il a 7 points d'avance maintenant.
Ouais. 25, 18.
Le mec qui gagne la première course et qui fait une belle série de victoires derrière, bah, s'il est pas trop con et qu'il fait pas de grosses erreurs, que la voiture est fiable, il peut assurer. Hein. Moi, j'ai plus peur en fait que finalement.
Ouais, mais la défaillance va coûter cher en points.
Oui, en points, mais après c'est tout. Tu prends quand même par rapport à avant, tu prends facilement 2 points de plus. Tu reviens au système d'avant qui était 10, 6, 5, 4.
Bah oui, justement.
Bah ouais, mais moi j'ai vraiment peur que sur certains trucs, ça écourte la saison, voilà.
Oui, mais enfin, il n'y a qu'un Shumi.
Ouais, bon, non, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. J'ai confiance, il y en aura d'autres.
Non, mais c'est quand même vachement... Enfin, c'est bien que en plus, on ait écouté, peut-être pas spécialement les fans, mais... les équipes et tout ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand même, c'est le prétexte de la FIA, qui est de dire, on élargit parce qu'il y aura plus de voitures.
Mais
alors que historiquement, on a quand même eu des saisons avec plus de voitures ou autant de voitures que cette année, et il y avait beaucoup moins de voitures qui gagnaient des points.
Je pense que c'est aussi une manière de compenser et d'encourager les écuries, les nouvelles écuries, parce que déjà que la FIA a pas respecté ses promesses quant au budget plafonné. Pour retenir les écuries, c'est aussi leur faire miroiter la possibilité de marquer des points, même si ça va être...
Ah, bien sûr, oui.
Mais la possibilité de marquer des points. Maintenant, faut pas se leurrer, il va quand même y avoir 14 mecs qui n'ont pas de points, donc... Moi, je suis pour un système comme en NASCAR. Tout le monde marque des points. Voilà. Bon, d'accord, le premier marque 175 points, mais c'est pas grave.
On a déjà fait péter la barrière des 10 points. Alors, avant de faire péter celle des 25... Oula, voilà. Attendons de voir.
Non, mais en plus, on peut quand même dire que ce barème, maintenant, c'est le barème des championnats du monde, puisque en rallye,
il est
c'est
déjà
ce barème-là. Appliqué. D'ailleurs, ouais. Kimi Raikkonen a 0 point pour le moment.
C'est d'ailleurs très intéressant, c'est parce que tu te rends compte que c'est un barème qui a été pensé pour la F1, qui a été décidé par la F1.
Bah, comme tout ce que fait la FIA.
Ouais, mais qui est appliqué à tous les autres. C'est-à-dire que, je sais pas, Citroën et Ford... Non, voilà, on leur demande pas leur avis.
Mais c'est rien, c'est des mauvaises marques, ça, c'est des petites marques de rien du tout.
Non, tu peux pas dire ça.
Mais oui, je peux monsieur.
En train de cracher dans la soupe, tiens.
Oh, tu vas te calmer là, oh. Non, parce que monsieur est le nouveau grand chef qu'il faut qu'il commence à me taper dessus, hein. Tu te prends pour qui?
Schumacher, je connais pas, Alonso, oh, c'est le plus beau des pilotes au monde.
Et bizarrement. Ah, non mais.
Tu disais pas ça avant.
Mais sérieusement, Alonso, j'ai eu la révélation le jour de la présentation de la Ferrari. Le jour des vroom. Je l'ai vu en rouge sortir de l'hélicoptère et je me suis dit mon héros, voilà. Et j'ai vu plus tard Shumi en gris. Je fais ouais, ça le vieillit.
Passe. Alors on a vu un peu transversalement sur la saison. Voyons un peu déjà ce qui a changé pendant les Grands Prix. Parce que y a pas mal de trucs qui vont changer. Et on va commencer par les qualifs. Alors, les qualifs sont sur le même système que l'an dernier, globalement.
Ouais.
Q1, Q2, Q3, que tu vas encore inverser pendant toute la saison.
Oh. Ah, quel mépris.
Donc, par contre, en Q1, en Q1, on aura donc...
Comment ça en Q1, Réo, tu me parles pas comme ça, toi?
On aura 7...
Je vais te faire la misère cette saison.
On aura 7 voitures éliminées.
Non.
On
aura... On a une voiture éliminée et les Lotus, les Virgin et les
j'allais y venir. Donc en gros, si on accepte la Toro Rosso, parce que dans les il y aura forcément une Toro Rosso,
oh,
ou peut-être une Force India.
Oh, je suis pas d'accord, je proteste.
Ou peut-être une Renault.
D'ailleurs, ça va être mon coup de gueule du jour, c'est la Toro Rosso.
Ah, on est bien, je vois de quoi tu parles.
Voilà, ouais. J'ai dit, c'est de quoi je parle, chers auditeurs. Vous allez en baver.
On reviendra plus tard. Est-ce que la Q1 cette année, ça va pas être chiant, en fait, avec juste, en fait, le classement des trois nouvelles équipes?
Ah non, c'est un warm-up. Les équipes.
A-t-on une Lotus ou une Virgin en Q2? Sachant que, on parle déjà de 3-4 secondes au tour, qu'on ne parle même pas de la HRT.
Attention! non, mais sérieusement, sur la Lotus et sur Virgin, ouais, au vu des essais, il n'y a pas de doute qu'ils vont être loin cette saison et que tout l'enjeu, ça va être sur chaque Grand Prix de savoir est-ce qu'ils se rapprochent. Mais attention à la Campos, on sait que la Campos est prête depuis pas mal de temps et que elle peut être bien née. Le problème, c'est justement, on l'a pas vu rouler, donc on n'est pas à l'abri que ce soit soit une catastrophe.
Mais justement, elle n'a pas roulé.
Mais justement, on n'est pas à l'abri que ce soit une catastrophe, ou au contraire, que ce soit comme, elle peut très bien être comme la Braun, débarquer et claquer des temps. Alors la Braun est une voiture exceptionnelle, mais elle peut très bien arriver. Non, mais elle peut très bien arriver et être dans les temps de Force India ou de Toro Rosso. Et donc dans ce cas-là, bah se mêler à la Q2. Mais justement, c'est le truc, c'est qu'on l'a pas vu rouler, donc c'est vrai que c'est un handicap, mais en même temps, ça se trouve, elle a un potentiel et elle est bien née.
T'es super optimiste.
Je suis pas optimiste, mais je vois tous les angles de la situation. Moi, monsieur.
T'es super optimiste.
J'avoue, j'ai une petite équipe que j'aime bien.
tu sais, parce qu'ils sont marron chocolat.
Ah, chocolat.
Et encore, c'est pas vraiment chocolat, c'est gris carbone un peu marron.
On s'en fout, chocolat.
On a parlé de la Q1, la Q2 on s'en fout.
Oui, tout le monde s'en fout. C'est quand même la première année où on s'en fout, parce que généralement la Q2 c'était intéressant, parce que justement on se disait, attention, c'est cette séance là où les voitures vont être rapides. Celle d'après...
Alors, la Q3, ça sera à vide.
Ah.
Parce que bien évidemment, ça paraît un peu compliqué de faire une pole position avec un réservoir plein de plusieurs centaines de litres d'essence. Donc ça c'est bien.
Ouais.
Ça c'est super chouette. Et là, on se dit, ouais, c'est génial, on va avoir des vrais pôles, le meilleur temps, il sera en Q3, ça va être génial, ça va être super beau. Et, parce qu'ils se sont dit, on peut pas laisser des choses comme ça.
Là, non.
Il faut bien qu'on les fasse un peu chier, les équipes. Il faut bien qu'on les fasse un peu chier, les pilotes.
Chers auditeurs, attention, il va y avoir débat.
Hein? Oh bah, puisqu'ils peuvent pas garder l'essence, on va leur mettre les pneus.
Ouais, mais leur ambition, c'est d'amener un peu plus de stratégie au début de la course. Voilà, dans la gestion des pneus. C'est-à-dire que les écuries en qualification auront quand même un choix stratégique à faire. C'est de mettre soit des pneus durs, soit des pneus tendres. On peut penser que certains, comme cette saison, hein, ceux qui voient qu'ils sont pas dans le rythme, bah, vont se contenter d'une 10e ou une 8e place. Et ceux qui voient qu'ils sont dans le rythme, bah, eux vont prendre des tendres et ils vont aller claquer la pole. Ce qui fait que, en course, eh ben, le premier relais sera plus court pour ceux qui sont devant et il sera plus long pour ceux qui sont derrière. Donc il y a une chance que dans la course, il y ait des rapprochements qui se fassent et qu'il y ait du mouvement en tout cas. Est-ce que ça va avoir un impact sur le résultat final? J'en doute, mais je pense que dans la première partie de course, en tout cas, il y aura du mouvement parce que on aura des pilotes qui ravitailleront parce qu'ils ont la citerne et des pneus tendres qui ravitailleront au bout de 7-8 tours, et on en aura qui ravitailleront parce qu'ils ont les durs, ils ravitailleront au bout de 18 tours par exemple.
Mais c'est quand même triste, enfin, parce que c'est vrai que c'est la pole quoi, et souvent ces dernières années avec l'essence, on se disait ah mais oui, lui il a fait la pole mais il a moins d'essence et tout. On avait l'occasion de revenir à une pure pole, tu vois, il y a la pure victoire, là c'est la pure pole. Vraiment le tour le plus rapide avec la voiture la meilleure. Et ben on nous balance ça. C'est un peu, non, je trouve ça un peu dommage.
C'est vrai que je suis assez d'accord sur ça, mais c'est justement ça aussi le truc. C'est que contrairement au plein où t'étais obligé d'embarquer de l'essence et que certains qui voulaient ou tu pouvais quand même. Hein, on se souvient d'Alonso qui avait pas du tout la voiture pour faire la pole, mais qui partait à vide et allait chercher la pole. Là dans les pneus quand même, vu que tout le monde part à quantité d'essence normale, la différence faite par les pneus, les mecs vont choisir les pneus en fonction de s'ils se sentent de faire la pole ou pas. La pole sera quand même au centre. C'est juste des écuries qui se diront, voilà, on est dixième et on a une voiture pour faire 7-8e, mais pas la pole. À quoi ça sert qu'on aille s'embêter à aller faire la pole? Partons avec des durs. On finira 7-8e comme on aurait fini de toute façon. Et c'est vrai que ça va surtout limiter plutôt que... Moi, de mon point de vue, en fait, ça va faire dans la super pole, ça va faire une super pole. Voilà, il y aura juste les 4 ou 5 meilleures voitures qui partiront entendre et qui iront se batailler pour faire la pole, tandis que les 4 ou 5 derrière, un peu plus lentes, bah, vont se contenter de pneus durs pour assurer une place devant.
Et pour certaines équipes et sur les circuits, ça risque d'être très compliqué parce que souviens-toi que l'an dernier, puisqu'il y a un nombre de trains de pneus limité. On a eu le cas d'équipes qui, en Q3, devaient garder des pneus pour la course. Et cette année, il y a encore moins de trains de pneus.
Oui.
Puisqu'il y en avait 15 l'an dernier, il n'y en a plus que 11.
On pense notamment à Kimi Raikkonen.
Il y en a 11. Et imagine que sur les 11, il faudra en rendre un, je crois que c'est vendredi soir, et un le samedi matin.
Ah ouais.
Pour les forcer à tourner et à utiliser les pneus.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est quand même basse.
Oui, tu sais, pour qu'ils ne soient pas tentés de ne pas rouler. Pour garder tous leurs pneus. A priori, en qualif, il n'y aura pas trop de soucis parce que les voitures seront relativement à vide. Mais s'ils font des essais, là encore, plus ou moins à plein, on sait que, on le dit tous les ans, mais l'utilisation des pneus, c'est très important en F1. Donc, ça risque d'être chaud. Donc, après les qualifs, passons à la course.
Oui.
Passons à la nouveauté. Enfin, oui, on peut dire la nouveauté de la saison.
La grille inversée. Mais non, on déconne.
La fin des ravitaillements.
Ouais.
Le retour aux courses, c'était 92, 93.
Je sais pas.
La dernière année sans ravitaillement.
Oui, ça doit être 93. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Puisque seul Rubens et
voilà, exactement.
Ont connu ça.
L'idée est simple. Se dire, ils ont plus le droit de ravitailler, donc ils pourront plus se déplacer dans les stands, donc ils seront obligés de se dépasser sur la piste.
Ouais.
Ça, c'est le principe.
Voilà. Ah.
Maintenant, est-ce qu'on risque pas d'avoir une file indienne de 2 heures? Oui, je sais, je suis extrêmement pessimiste ce soir.
Mais c'est vrai que c'est ce que disait Enzo l'an dernier, c'est que ça va peut-être un peu plus forcer les pilotes à prendre leurs responsabilités. On sait qu'il y a certains pilotes qui pilotent et qui font davantage confiance à la stratégie, etc., et qui se contentent. Ça va peut-être forcer les pilotes à ne pas perdre courage. On en a vu certains se contenter d'une place. Et là, je veux dire, non, on va attaquer parce que voilà, ça va avancer. C'est vrai que faut quand même reconnaître, dans un ravitaillement, c'est surtout l'essence qui prend le plus de temps et que
oui, qui détermine le temps.
Vous pouvez aussi gagner dans les ravitaillements un petit peu de temps en jouant sur les stratégies d'essence. Là, ce sera plus possible.
Non, parce que alors il y aura toujours les arrêts pour les pneus, puisqu'on est toujours sur l'arrêt des deux types de pneus pendant la course. Donc minimum un arrêt. Par contre, il n'y aura pas de système électronique, mécanique pour aider le ravitaillement. Donc tout ce qui était, les jacks, les trucs qui montaient les voitures toutes seules avec un petit moteur, des choses comme ça, c'est fini. Alors on parle déjà, Enzo nous l'avait dit, d'arrêts à 3-4 secondes.
Bah, sur ce qui a été essayé, notamment en Barcelone, on tourne entre eux. Apparemment, les meilleurs, c'est McLaren en 4 secondes 7 et Ferrari en 4 secondes 8. Et les autres sont en 5 secondes.
C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de monde autour de la voiture. Voilà. Même s'il n'y a plus donc les deux personnes présupposées à l'essence. Mais après, pour tout le reste, quasiment, puisqu'ils n'ont pas limité le nombre de personnes autour de la voiture. Donc globalement, en termes de population, ça devrait être assez similaire.
Voilà.
Bah, wait and see quand même. Puis ça risque aussi, je pense, beaucoup de dépendre des courses, des pistes. Oui. On sait déjà que même avec les ravitaillements à essence, il y a des pistes où il y a peu de dépassements, voire pas du tout.
Et c'est ça, faut voir ce que ça donnera Mais si ça, si ne serait-ce que ça encourage les pilotes à plus tenter et faire
oui.
Et aller à l'initiative, moi je suis pour. Même si
l'idée de base est très bonne.
Même si ça offre peut-être moins de spectacle, mais à la limite, moi je préfère un spectacle où on voit un mec qui attaque, qui fait des petits dérapages, etc. Parce qu'il attaque et voire même qui fait des bêtises parce qu'il attaque, plutôt que de voir un mec qui se dit attends, je vais voir ça avec les stands. C'est vrai que généralement les grands prix ces dernières années, ça se limitait au fait de alors attention, lui ravitaille quand, comment ça va se passer. Là, on aura tout sous les yeux et il y aura finalement peut-être un suspense haletant sur toute la course.
D'ailleurs, les quantités d'essence redeviennent secrètes.
Bah, en même temps, non, elles sont pas utiles puisqu'ils vont tous mettre.
Alors, elles sont pas utiles dans le sens où, oui, on se dit que bien évidemment, ils vont tous partir avec le plein. La question, c'est ça va être quoi le plein suivant les moteurs, suivant les voitures, voilà. Suivant les pistes.
Pourvu que la Ferrari soit pas trop lourde.
Et qu'il y a peut-être justement, peut y avoir des surprises. Donc après, globalement, sur le déroulement de la course, c'est le même que l'an dernier. Enfin, c'est le même que ce qu'on connaît.
Oui, il y a un départ.
Avec la limite... Non, mais par exemple, la limite des deux heures, tu te souviens que quand il avait été question de futures réformes, il avait été question, par exemple, de réduire la durée, de réduire les courses à une heure et demie, par exemple. Donc ça a été abandonné. En même temps, dans les faits, souvent, les courses durent une heure et demie.
Voilà.
Par contre, il y a eu quelques petites évolutions. Par exemple, la réforme du drapeau rouge.
Oh, hein, ça va être long.
La réforme dite malaisienne.
Ceux qui ont regardé le Daytona 500 en 2010, eh ben, ils ont tout compris de comment allaient ressembler les courses l'année prochaine.
En même temps, il va pas pleuvoir comme en Malaisie sur toutes les courses. Il y aura des interruptions de course de 45 minutes toutes les semaines.
Attention!
Mais ça peut être bien, ça peut nous faire des après-midi type NASCAR, tu vois, 45 minutes de course, une grosse coupure.
Ah, c'est TF1 qui va être content.
Le temps qui sera pris sur le drapeau rouge sera, entre guillemets, rajouté à la durée de course de 2 heures.
Voilà.
Deuxième chose, pour les safety cars, et je pense que ça, c'est important, on va revenir à un système à l'ancienne, c'est-à-dire interdiction de doubler la safety car pour les retardataires.
Oh non, c'est con ça. Oh non. Oh non. Oh putain, tu me bousilles ma soirée. Oh non, c'est con.
Mais
oh
non, après, on avait des safety cars qui duraient 2 heures parce qu'il fallait que les retardataires ils fassent le tour et puis qu'ils se mettent en file indienne.
Ben ouais, mais c'était mieux parce que...
C'est-à-dire que pour le coup, je trouve que ça tombe super mal, surtout avec les nouvelles écuries.
Oui, voilà, ouais, c'est surtout c'est que elles font un tour normal, même sous safety car, c'est le même temps. Donc.
Mais non, mais c'est bien, on n'aura pas des safety cars qui durent 10 plombes.
Oui, mais pour moi, ça va contre.
L'important, c'est d'avoir des pilotes retardataires qui donnent pas l'impression. Je sais pas moi, de compter fleurettes, choses comme ça, quoi. Faut qu'ils soient au taquet pour laisser les voitures jouent la victoire.
On va demander aux retardataires qui sont déjà super lents, qui pourraient déjà être super lents, de se mettre sur le côté, etc., pour laisser passer les autres. Et autant qu'on les laisse directement passer, ça va faire des restarts plus jolis et plus sportifs que de laisser 3 gugus sur le côté en disant « Ouh, attention, oh, j'en ai un qui arrive derrière, oh merde, il y en a un qui est à gauche, oh, il y en a un qui est à droite, oh merde, c'est Choumi !» ça va être chiant, quoi. Pauvre Trulli.
Donc ça, c'était pour les courses. Donc, quand même, pour l'instant, on peut pas dire que ce soit la nouvelle ère annoncée.
On verra bien. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est wait and see. On verra ce que ça donne. Oui. Ça peut être intéressant. Moi, je pense que ça va être intéressant, un peu à l'image du KERS. Ouais, c'est ça, c'est du KERS en début de saison. Mmh. Voilà, en début de saison, on avait les voitures avec le KERS qui étaient loin derrière et qui, grâce au KERS, remontaient. Et ça densifie un peu le plateau. Puis vers la fin de saison, tout le monde s'était habitué et on retrouvait des courses un peu chiantes. Ça fait aussi penser à l'antipatinage. Quand on a arrêté l'antipatinage, c'était super excitant les premières courses. Les mecs se sont habitués et les courses sont redevenues chiantes. Donc je pense que ça va être intéressant pour le début de saison. Après, je pense que on se sera habitué et que le spectacle baissera peut-être d'intensité.
C'est Yannick que je t'adore.
Pourquoi ?
Parce que t'as parlé du KERS.
Oh.
Et ça me permet de faire la transition.
Putain, merde, je le faisais technique. Pas ça l'an dernier, merde. J'arrivais pas à faire des transitions. C'est ça.
Parce que, alors là, on va parler d'un secteur où c'est encore moins la révolution. C'est la partie technique. Parce que faut bien dire que globalement, Voilà. Donc, on note quoi? On note la fin du KERS. Enfin, la fin.
Non, non, mais il n'y a rien à rajouter. Plus long, plus gros, c'est tout. Voilà. Voilà.
Tout ça parce que tu veux pas parler de technique.
Oui, non, mais ça me dérange pas, mais ouais, il y a plus de KERS. C'est plus long, c'est plus gros, c'est tout.
D'ailleurs, on remarquera quand même un truc. Ah, c'est que le KERS. L'an dernier, les équipes disaient, ouais, c'est trop lourd, ça prend trop de place, ça bousille l'aéro global des voitures. Et d'ailleurs, finalement, on a eu que deux équipes qui ont vraiment su intégrer le KERS.
Bah, disons que eux, c'est les seuls qui s'en sont servis jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, ouais. Non, mais les voitures avec le KERS n'étaient pas spécialement plus grosses. On est bien d'accord, ouais, l'an dernier.
Tout à fait.
Alors que le KERS, c'était quand même censé quelque chose qui prend du poids, de la place.
Tout à fait.
Ils ont eu du mal à le mettre.
C'est vrai.
Et ben malgré tout, on se rend compte que les nouveaux réservoirs, ça prend plus de place que le KERS.
Ouais, mais c'est pas le même.
Puisque cette année, les voitures sont plus grosses.
Mais c'est pas le même poids.
Même sur les... Mais bien sûr que c'est pas pareil. L'un, c'est de l'essence, l'autre, c'est des batteries.
Voilà, mais voilà.
Donc finalement, c'était peut-être pas si gros que ça, le KERS.
Bah, comparé à un réservoir de, je sais plus, c'est 240 litres, je crois. Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est pas pareil.
D'ailleurs, on marque. Alors, si, il y a une survivance du KERS. C'est le nouveau poids autorisé. Parce que quand même, on a augmenté le poids minimal des voitures de 605 à 620 kilos en prévision du KERS pour éviter que les pilotes de F1 deviennent des jockeys, voire pire, des anorexiques. Pour finalement ne pas utiliser le KERS.
Ouais, mais c'est il y aurait eu sans doute le même phénomène avec le on se souvient tous donc je crois qu'on en avait parlé pendant l'émission de pré-saison l'an dernier. On avait été choqué par les photos des pilotes qu'on trouvait vachement avancés.
Oui.
Et je pense qu'ils auraient même sans KERS cette saison avec un poids de 605 kilos, je pense que les écuries et les pilotes auraient continué à chercher le moindre gramme sur le pilote parce que voilà, le gramme gagné sur le pilote, bah c'est du gramme que t'embarques en moins quoi.
Mais il risque de continuer hein, parce que si ça c'est 15 kilos, si ça peut être 15 kilos de lest et donc ils peuvent être
voilà.
Un peu comme ils veulent, voilà. Ça finalement ils vont récupérer le truc pour que ça soit à leur avantage. Autre chose qui change, c'est les pneus et les pneus à l'avant.
Plus étroits.
Pneus étroits. Voilà. Alors c'est un truc que Bridgestone avait dit. Enfin en gros ils avaient pigé le truc dès l'an dernier. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le retour des pneus slick, il y avait beaucoup trop d'adhérence à l'avant. Donc ils se sont dit, faut mettre des pneus plus étroits. Ah, mais pas de bol, les voitures, elles ont déjà été conçues avec des pneus de même taille à l'avant et à l'arrière. Donc c'est pour ça que ça n'est appliqué que cette année.
Voilà.
Donc des voitures qui, normalement, cette année, seront mieux équilibrées en termes d'adhérence avant-arrière. C'est vrai que l'an dernier, elle glissait beaucoup de l'arrière,
ouais.
On se souvient.
Non, puis ça va, c'est pareil, ça va aussi, je pense, pour les pilotes, leur redonner un petit peu de challenge au niveau du pilotage, parce que l'entrée en virage sera beaucoup moins facile, et voilà. Mais il y a déjà eu des solutions, c'est ce que je disais sur le blog, assez bizarrement, on a vu par exemple sur la Force India, ils ont repris le concept de la petite bosse en dessous du museau, qui était sur la Renault de l'an dernier. Et
ouais.
C'est là où on commence à se dire peut-être que la Renault avait été prévue pour des pneus étroits et que ils avaient oublié qu'il n'y avait pas de pneus étroits. Donc, parce que en fait, l'idée de cette bosse, c'est que quand l'air passe sous la bosse, derrière la bosse, il y a une dépression qui se forme. Donc, qui dit dépression, dit un appui qui se forme sous le museau.
Oui.
Donc, il y a plus d'appui. Donc, l'avant est entre guillemets plus stable.
Et puis, ces pneus, c'est pas encore parce que il y a des choses qui évoluent peut-être.
C'est peut-être les derniers qu'on voit.
C'est peut-être les derniers de Bridgestone.
Allez, Kumo,
Hankook. Il paraît que Michelin.
Michelin veulent revenir, mais à la seule condition.
Ils parlent de discussions formelles, voilà. Hein, pas sans plus.
Ils veulent bien revenir, mais à condition qu'il y ait un véritable challenge. Même seul, hein, ils sont prêts à revenir seuls, mais il faut qu'il y ait un challenge écologique où le produit est vraiment mis en avant. Mais après, c'est vrai que la décision de retrait de Bridgestone, je pense pas qu'ils le fassent de gaieté de cœur parce qu'ils ont eu plusieurs fois l'occasion, mais c'est vrai que la crise au Japon heurte.
Oui, hein, y a aussi ça. Hein.
Et c'est vrai que depuis le monopole, eux, ils ont pas cherché. Moi, je me rappelle avoir vu sur des forums des gens qui encourageaient les gens à plus acheter Bridgestone parce que c'était une honte, ils abandonnent la F1 comme ça. Non, ils font aussi une décision économique. Malheureusement pour eux, le format économique ne correspond plus. Il n'y a plus assez de visibilité dans la F1 pour le manufacturier. Moi, personnellement, je suis un ardent défenseur du manufacturier unique parce que je pense que les pneus ont trop souvent pipé les dés. Mais là, c'est vrai que c'est pas gérable pour eux. Et il n'y a pas suffisamment de frais de communication. Alors c'est vrai que maintenant, c'est à la FIA de réfléchir à un moyen de retenir. Et le challenge écologique est...
Il faut un challenge de performance et un challenge écologique, c'est évident. Voilà. C'est vrai qu'un retour de Michelin, quand même... Alors qu'on sait qu'ils étaient pas chauds pour le manufacturier unique...
Mais ça, surtout que c'est ça, là, ça prendrait son sens en 2011, vu la nouvelle réglementation sur le plein d'essence.
Oui.
Effectivement, on sait que la qualité des pneus peut largement influer. C'est d'ailleurs l'un des domaines dans les voitures de série, l'un des domaines où les constructeurs travaillent énormément, c'est la qualité des pneus. Oui. Ils travaillent beaucoup avec les constructeurs de pneus pour avoir des pneus qui limitent finalement à terme la consommation d'essence.
À noter que au niveau des roues, il y a aussi quelques petits changements. Alors, il n'y a plus les flasques. Pour certains, c'est dommage. Pour d'autres, c'est vrai que les flasques jaunes fluo de Braun, bon, ouais, on peut les aimer.
En même temps,
on
a retrouvé avec les nouvelles monoplaces le plaisir de voir des jantes colorées. Donc voilà, c'était assez agréable. Les jantes.
Voilà. Attention. Les pneus, oui.
Mais les jantes, non.
C'est-à-dire qu'il y avait, il y aura toujours la couverture pour le pneu, mais il n'y aura pas la petite couverture circulaire pour la jante. Donc c'était la partie technique. Là encore, cette année, c'est pas la révolution. Enfin, comme tu l'as dit, les voitures sont plus longues, elles sont plus grosses.